France Inter, le 6-9 du week-end.
Alain Baraton, le jardinier de Versailles, bonjour mon cher
Heureux
Alain.
Heureux d'être avec vous, bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour Alain. À tous.
Je lis votre lancement, vous avez vraiment l'intention de nous parler du paix du diable ce matin?
Oui, et de laisser à François-Régis Gaudry le soin de vous expliquer ce qu'est le beignet de pomme, à savoir le paix de nonne. Alors le paix de diable, vous vous en doutez, n'est en rien une flatulence satanique, mais le nom d'un arbre, aussi appelé arbre dauphin, sablier des Antilles, ou encore arbre bombardier.
Ouais, c'est un végétal qui mérite donc une petite description, parce que je vois pas ce que c'est.
Oui, ben, le hurac crépitans, c'est son appellation botanique, est originaire des forêts tropicales du continent américain. C'est un grand arbre qui peut atteindre assez vite 40 mètres de hauteur. Son tronc est couvert d'épines coupantes comme des rasoirs, ses feuilles sont grandes, ses fleurs rouges, et ses fruits ressemblent à des petites citrouilles.
Des fruits comestibles?
Alors, il se dit que oui, mais à la condition qu'ils soient cuits et bien cuits. Ils sont déconseillés crus car ils contiennent un latex aux propriétés purgatives. J'ai quelques amis qui en ont mangé et ils s'en souviennent encore.
Et l'arbre, vous l'avez dit, est surnommé sablier des Antilles.
Oui, comme je vous l'ai dit, le fruit ressemble à une petite citrouille de 8 à 10 cm de diamètre. Une fois séché et vidé, on le plaçait sur un bureau, puis on y mettait du sable, qui était ensuite saupoudré sur les lettres quand il n'y avait pas de papier buvard.
Il est aussi appelé, cet arbre, arbre dauphin.
Il se trouve qu'une partie de l'intérieur du fruit, une fois séché, là encore, a la consistance du bois. Cette partie que l'on nomme carpelle permet d'y sculpter très facilement la forme d'un dauphin, d'où l'appellation d'arbre dauphin, et on en trouve d'ailleurs beaucoup quand on se promène sur l'île de la Réunion.
Alors pourquoi ce nom curieux de paix du diable?
C'est là où tout se complique quelque peu. Ce fruit, pour sa multiplication, explose littéralement, je parle bien du fruit, quand il est à maturité. Il peut projeter, c'est assez incroyable, des graines jusqu'à 45 mètres de hauteur à une vitesse de 240 km/h. Alors quand les graines sont libérées, on entend comme une détonation, une vraie détonation qui ressemble soit à un coup de feu, soit à un paix du diable.
Voilà, tout va bien sinon
Ça va très bien.
Ben justement, vos conseils à présent aux auditrices et auditeurs de France Inter avec Hélène qui voudrait vous parler de ces deux chênes, des chênes du Marais. Ils ont 50 ans, ces arbres, ils sont sur son terrain en ville. Ils ont été élagués en partie il y a une dizaine d'années, mais, dit Hélène, les branches élaguées ne se sont jamais développées. Elles meurent. Pourquoi?
Eh bien, parce que l'arbre a été élagué en dépit du bon sens. Le chêne des Marais, c'est déjà un très joli chêne qui a des feuilles bien découpées et dont les feuilles prennent des teintes rouges à l'automne. C'est une merveille. Quercus palustris pour les botanistes. Eh bien, les chênes, en général, ne partent pas du bois. On ne va pas rabattre un chêne pour qu'il redémarre. C'est pas un osier, c'est pas un saule, c'est pas un arbre têtard, comme on dit. Le chêne est une essence robuste, d'où le nom d'ailleurs du pédonculé, notre vieux chêne à nous, le Quercus robur. Mais c'est toutefois un être vivant qui a besoin de délicatesse. Alors vous coupez trop court un arbre, il n'a pas suffisamment de force pour redémarrer là où on l'a trop coupé, et petit à petit la plante dégénère et va finir par mourir. Trop tailler un chêne le conduit à sa perte, c'est ce qui est en train de se produire. Nos chênes des Marais, il y en a deux, sont en train de mourir.
France vous demande, pourriez-vous Alain Baraton me guider pour la taille d'un pêcher? Je trouve des explications un peu partout sur internet, mais toutes très compliquées et parfois contradictoires. Qu'est-ce qu'il y a de contradictoire?
Parce qu'on raconte qu'il faut tailler en mars plutôt qu'en avril. Ouais. Certains vont vous dire qu'il faut tailler en tenant compte de la forme des bourgeons. Les bourgeons rouillent dans l'an des fruits.
Et donc, les conseils d'Alain Baraton là-dessus?
Bah, moi, j'ai un pêcher dans mon jardin, je ne l'ai jamais taillé. Tous les ans, il dégueule, il n'y a pas d'autre mot, de fruits. Alors, de temps en temps, regardez la nature. Pourquoi vouloir systématiquement tailler? Le cerisier, par exemple, est un fruitier qui n'aime pas être taillé. Et regardez combien il peut être envahi de cerises avant que les oiseaux n'arrivent, bien sûr, et dépouillent la totalité. L'abricotier est un arbre qui n'aime pas être taillé. Bien sûr, certains vont être taillés quand ils sont palissés, comme à Nancy, c'est une spécialité le long des murs. Mais quantité de végétaux n'ont pas forcément besoin d'être taillés. Donc pour le pêcher, limitez-vous à couper les branches mal disposées, les branches au cœur du végétal. C'est que j'aime bien que la lumière caresse l'intégralité de la ramure. Coupez les branches qui sont vraiment souffreteuses, et regardez-le fleurir, vous allez voir, c'est merveilleux.
Et je note qu'il dégueule, donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc j'espère que bientôt nous aurons des pêches.
Mais tous les ans, je vous rappelle, je vous offre de la confiture de pêche.
Et vous en êtes
très heureux.
Vous mentez.
Ça, on va bien aller voir à la marathon. C'est dit sur l'antenne, c'est enregistré même, je pense. Catherine, on m'a offert des jacinthes en pot pour la fin de l'année, et j'aimerais bien les replanter dans mon jardin. À quel moment faut-il le faire et comment procéder?
Bon, c'est très simple, vous attendez qu'elle ait fini de fleurir, bien évidemment. Vous attendez également avant que le feuillage soit sec, donc vous arrêtez de l'arroser, et quand la feuille est totalement sèche, vous prenez le bulbe, vous l'enterrez où vous voulez dans le jardin, il repartira l'an prochain, alors ce sera un bulbe amoindri, il sera beaucoup plus petit, la couleur moins vive, mais il y a quand même une petite présence qui n'est pas négligeable, ça fait une petite touche de couleur, c'est amusant, donc une fois, et ce que je dis est valable pour tous les bulbes, quand le feuillage aura bien séché, car le bulbe a besoin de se reconstituer des réserves.
On termine avec une histoire de Troène. Je viens d'acheter une maison où il y a un Troène dans le jardin. Il mesure 9 mètres de haut. Alors nous l'avons débarrassé de son lierre. Je crains qu'il ne fasse des dégâts un jour de grand vent. Peut-on élaguer un Troène ? Demande Fanny.
Je crains surtout qu'il ne s'agisse pas d'un Troène. Ah. Parce que très objectivement, un Troène de 9 mètres de haut, envahi par de lierre qui menace de s'effondrer, moi je n'en ai jamais vu. Alors à vérifier, c'est un arbre certainement, mais un arbre de 9 mètres de haut n'est pas non plus un danger épouvantable. Cessons de fantasmer sur la chute des arbres. Des grands arbres peuvent effectivement causer de gros dégâts quand ils tombent, mais quand un arbre en ville fait 9 mètres de haut, qu'on pense qu'il a un aspect arbustif, forcément, je doute quant au danger. Mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas un Troène.
Enfin, je vous rappelle quand même les tempêtes 99 à Versailles, vous l'avez bien subi tout de même.
Oui, bien entendu, mais les vents
même
étaient, je vous rappelle...
un peu du vent et des arbres.
Les vents étaient à 175 ouais. km/h et je vous rappelle qu'à Versailles, aucune statue, aucun banc et aucun blessé ne furent à déplorer.
Alain Baraton et votre main verte, un dernier conseil pour le week-end.
Le bonheur est au jardin de Karine Maillot, c'est publié chez Terre Vivante. Tous les conseils pour avoir un joli jardin, traitement en permaculture.
C'était Alain Baraton.